Vous écoutez
RMC.
Jeudi 18 juin.
L'info sur RMC.
Il est 6h. Merci d'être avec nous. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Des milliers de postes bientôt supprimés chez Air France. La compagnie envisage le départ de 15 à 20% de ses effectifs. Toutes les catégories de personnel sont concernées. Commémoration du 18 juin. Marine Le Pen accueillie sous les huées des habitants de l'île de Sein. Visite express 24 heures avant la cérémonie officielle des 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Et puis fini les règles de distanciation physique à la maternelle. Le protocole sanitaire à l'école est allégé pour une reprise massive lundi prochain. RMC 6h, bienvenue à tous. Coupe historique dans les effectifs de la première compagnie française. Air France pourrait supprimer jusqu'à 10 000 postes, conséquence directe de la crise du coronavirus. Il s'agirait dans un premier temps d'un plan de départ volontaire. C'est la filiale Hop qui devrait être le plus touchée, Aurélia Manoli.
Oui, c'est un plan de départ massif qui touche toutes les catégories de personnel et représente jusqu'à 20% des effectifs du groupe. 4 000 à 6 000 suppressions de postes pour les personnels au sol, entre 2 000 et 2500 pour les personnels navigants, 400 pour les pilotes selon les chiffres du journal Les Échos. Mais c'est donc Hop, la filiale régionale low cost, qui devrait payer le plus lourd tribut avec la suppression de la moitié de ses effectifs, soit plus de 1 300 postes. Pour le secrétaire du comité social et économique de Hop, Joël Rondel, l'annonce est un coup dur.
On s'attendait quand même à des gros chiffres, mais c'est catastrophique. Le problème, c'est que on n'est pas à notre premier plan social. On est rendu à notre 7-8e facile. On a perdu je sais pas combien d'emplois au niveau du groupe. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter. On va se faire entendre, essayer de minimiser. L'objectif demain, c'est qu'il n'y ait pas de départ contraint.
La direction avait déjà prévu en effet le départ naturel de 3 800 personnels proches de la retraite. Ce sont donc les départs volontaires et les incitations financières qui devraient être privilégiées. C'est le cas pour les pilotes et les personnels de cabine qui ont commencé leurs négociations. Les décisions devraient être annoncées par Air France d'ici fin juin ou début juillet pour une mise en œuvre jusqu'en 2021.
Merci Aurélia. Le premier groupe européen aérien Lufthansa a aussi indiqué qu'il comptait supprimer 22 000 postes, soit près de 16% de ses effectifs. Aujourd'hui, cela fait 80 ans que le général de Gaulle a lancé l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron est attendu à Londres pour commémorer l'événement historique. Marine Le Pen, elle, n'a pas attendu le jour J. La présidente du Rassemblement national s'est rendue par surprise hier sur l'île de Sein, symbole des Français partis rejoindre la résistance en Grande-Bretagne. Marine Le Pen savait qu'elle ne serait pas la bienvenue, raison pour laquelle elle s'est rendue sur place avec un jour d'avance. Romain Cluzel.
Une honte, une provocation, crient ces habitants de l'île de Sein en voyant Marine Le Pen débarquer. Parmi eux, Pierre, ils n'acceptent pas que la présidente du Rassemblement National commémore la résistance ici.
Tous les hommes en âge de se battre sont partis pour l'Angleterre, rejoindre le général de Gaulle. C'est quelque chose qui appartient ici à l'île de Sein et c'est pour la mémoire des anciens. Et c'est impensable de voir cette personne venir ici représenter la France.
Marine Le Pen réplique et affirme avoir dû venir un jour plus tôt que prévu sur l'île pour éviter un accueil encore plus hostile.
Il en est de la responsabilité de ces milices d'extrême gauche, dit Antifa, qui maintenant, de manière systématique, empêche la démocratie de fonctionner.
La députée s'en prend également à l'État qui, d'après elle, ne l'a pas protégée lors de sa venue à Dijon mardi. Une stratégie de victimisation qui n'est pas nouvelle, selon Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques.
Cette méthode, elle est un petit peu usée, effectivement, mais son projet, c'est effectivement de montrer qu'elle est la garante de l'ordre. Et c'est aussi pour ça qu'elle se met dans une posture gaulienne, comme elle est en train de le faire ces derniers jours.
Selon le chercheur, Marine Le Pen veut engager dès à présent un match avec Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle de 2022.
La fin des règles drastiques à l'école depuis le déconfinement. Les enfants et enseignants devaient suivre à la lettre un protocole sanitaire dans les écoles primaires et au collège. À partir de lundi, donc, les règles vont enfin changer et devraient permettre le retour en nombre des enfants dans les établissements. Le protocole a été dévoilé hier soir, Marion Fournet.
Premier allègement conséquent, la distanciation physique. Il n'y en aura plus à l'école maternelle, que ce soit en classe, à la cantine ou à l'extérieur dans la cour de récré. À l'école élémentaire et au collège, place à la souplesse. Il faudra essayer de faire respecter un mètre entre les élèves, dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Une consigne qui ne s'appliquera pas dans les espaces extérieurs entre élèves d'une même classe ou d'un même groupe. Pour accueillir le plus grand nombre d'enfants, il sera possible d'organiser la classe à l'air libre. Le masque, lui, reste obligatoire pour le personnel éducatif, mais les enseignants parents pourront l'enlever lorsqu'ils font cours et sont à plus d'un mètre des élèves. Côté élèves, justement, seuls ceux de plus de 11 ans devront porter le masque en classe. Un protocole allégé, donc, qui devrait permettre à davantage d'élèves de retrouver les bancs de l'école. Depuis la réouverture des établissements scolaires mi-mai, seuls 2,4 millions d'enfants sont retournés en classe, sur un total de 10 millions d'élèves scolarisés en France.
L'Assemblée a voté hier le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet à Mayotte et en Guyane. Et l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 30 octobre, texte examiné au Sénat lundi prochain. La France a enregistré 28 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Toujours moins de patients en réanimation, 772 malades. L'Organisation mondiale de la santé a décidé d'arrêter les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. L'OMS est arrivée à la conclusion que cet antipaludéen ne réduisait pas le taux de mortalité des malades du Covid. À retenir également dans l'actualité, l'infirmière de 50 ans violemment interpellée mardi à Paris lors de la manifestation des soignants sera jugée le 25 septembre pour outrage et violence. Elle a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés, notamment les jets de pierre envers les forces de l'ordre. Peut-être la fin du mystère de la disparition de la petite Maddy McCann il y a 13 ans au Portugal. Les enquêteurs allemands affirment disposer de preuves que la petite britannique est décédée. À Berlin, pour RMC, Violette Bonneba.
Le parquet de Brunswick en charge de l'enquête l'assure. Deux semaines après avoir lancé un appel à témoins, il dispose de faits concrets, de preuves que la petite Maddy est morte. Quelles preuves ? Eh bien, à ce stade, le parquet ne veut pas en dire plus. Le corps de la petite fille, disparue en 2007 au Portugal, n'a pas été retrouvé. Le suspect numéro un Allemand de 43 ans, nie lui toute implication. Mais ce pédophile multirécidiviste qui vivait au Portugal, eh bien, cela fait en fait 7 ans que la police allemande le soupçonne d'avoir enlevé Maddy. Les enquêteurs ont peut-être maintenant trouvé la preuve qui leur manquait. Selon la presse allemande, des maillots de bain pour petites filles et des milliers d'images pédopornographiques ont été découvertes dans un camping-car appartenant au suspect.
6 mois après le crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant à Los Angeles, l'enquête révèle que le pilote a dit au contrôleur aérien qu'il essayait de sortir d'un épais brouillard, un échange juste avant que l'appareil ne percute la colline. 9 personnes sont mortes dans cet accident. La reprise de la Premier League hier, victoire de Manchester City sur Arsenal 3-0. On retiendra cette image des joueurs, les arbitres et les membres des staffs qui ont posé un genou à terre au moment du coup d'envoi pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Je vais y arriver.
Merci Céline, on vous retrouve. Mais oui, vous allez y arriver. On vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure à 7h. Il est 6h07. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Mathieu Rouault nous rejoint.
Bonjour à tous.
Ça va Mathieu?
Ça va très bien.
Et là aussi, regardez le rivet sur
les infos,
sur ordinateur. Les infos. Scrute les dernières informations pour vous. Pour vous, il est 6h07. Vous êtes réveillé. Vous êtes à la radio. Vous êtes devant votre télévision. Vous êtes avec nous le matin. C'est notre lien, ce 32-16. Vous nous appelez, dites-nous un peu. Dites-nous ce que vous vivez, dites-nous ce que vous pensez de toute cette actualité qui est extrêmement riche, agitée, hein, terriblement agitée. Notre société est très agitée actuellement. 6h08, allez. Agitée aussi dans les Yvelines. Mais que s'est-il passé ? Une promotion pour une console de jeu. Magasin Lidl. Et... c'est à quel endroit ? Orgeval, dans les Yvelines. C'était hier matin, très tôt, hein ? Très très tôt. Il y avait déjà plusieurs centaines de personnes aux portes du magasin, 400, 500, qui se sont assemblées pour profiter d'une énorme promotion sur les PlayStation 4 de Sony, proposée au prix record de 95€ au lieu de 300€. Évidemment, c'était une belle affaire. Face à une telle cohue, vous voyez les images sur AMC Découverte. Que s'est-il passé ? Eh bien, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour endiguer les débordements, allant même jusqu'à gazer, j'aime pas trop ce mot, employer des gaz lacrymogènes, hein, parfois, pour disperser les clients du magasin. Dans la cohue, une personne a fait un malaise, un gendarme a été blessé par un jet de bouteille. Lidl, évidemment, a réagi, et devant ce fiasco provoqué par cette offre, dans un communiqué lancé enseigne a indiqué qu'il s'agissait d'une opération spéciale de déstockage issue d'une ancienne vente d'avril 2018. Aucune communication de notre part n'a été faite sur cette opération, mais une faute au personnel a été malencontreusement relayée à de nombreuses reprises, poursuit la marque de supermarché Discount, et qui est quand même responsable de ce qui s'est passé. L'enseigne voulait faire la promotion de son tout nouveau magasin à Orgeval. C'est réussi, enfin à moitié. Reportage sur place, Juliette Pietraszewski.
Plus de 500 clients agglutinés devant les portes du magasin. Les gendarmes interviennent et utilisent du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Ryan repartira sans PlayStation, mais avec les yeux qui brûlent.
Je suis dégoûté. J'étais là, j'étais venu dans l'optique de repartir avec une PS4 pour mon petit frère. Au final, je vais rien avoir du tout. En plus de ça, je me suis fait gazer. En vrai, le truc, il aurait largement pu être mieux géré, quoi.
L'organisation du magasin Lidl, c'est aussi ce que dénonce Daoud. Il a le sentiment d'avoir été manipulé par la grande enseigne.
Ça, c'est un coup de com' qui profite à Lidl. Le dispositif, il n'y en avait pas quand on est arrivé. Aucune barrière. Les personnes, ils se retrouvaient à se pousser, s'agglutiner. Un par un, il y avait des mamans, des enfants. Ils s'étonnent de faire envier les miséreux. Ils les font venir en leur promettant des prix bas. Au final, pas de console pour personne. Tout ça, c'était qu'un coup de bluff.
Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl, l'assure. Il ne souhaitait pas communiquer concernant cette promotion. C'est un individu externe au magasin qui a communiqué sur les réseaux sociaux pendant la mise en rayon des consoles de jeux.
Il y a déjà eu 5 magasins en ouverture qui ont eu exactement le même produit, la même quantité, et personne n'en a entendu parler, et il n'y a absolument pas eu de débordement. Donc, effectivement, il y a eu un débordement, et c'est malheureux ce qui s'est passé. Mais de dire qu'on l'a prévu, qu'on pouvait le prévoir, c'est juste impossible.
L'enseigne a décidé d'annuler la vente des consoles et de les céder au profit d'une œuvre caritative.
Bien, très bien. Mais qu'avait prévu de faire Lidl au départ, Quentin Vinet ?
Est-ce que c'est légal ?
Est-ce que c'est légal, cette promotion ?
C'est ça la question qu'on se pose. Alors la réponse, a priori, c'est oui. Vous avez sûrement en tête la loi alimentation de 2019 qui est censée, sur le papier, équilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Les distributeurs n'ont plus le droit de pratiquer des promotions agressives sur l'alimentaire. Elles sont limitées à 34% du prix de vente. Mais cette loi alimentation ne concerne pas les produits non alimentaire. Donc Lidl est tout à fait en droit de vendre au rabais ses PlayStation à condition de ne pas revendre à perte sous peine d'une amende de 375 000 euros. C'est ce qui était arrivé à Intermarché en 2018 pour avoir vendu du Nutella, des courges Pampers et du Perrier à moins 70%. Le groupe était hors la loi.
Alors est-ce qu'il faut étendre la loi aux produits non alimentaires ?
Alors il existe déjà en réalité des règles très strictes en matière de promotion. Elles sont autorisées pendant la période des soldes. Il faut une autorisation de la préfecture pour les liquidations de stock dans les magasins. Et les ventes au rabais dont on parle sont possibles, mais il y a des conditions d'affichage à respecter pour ne pas mentir sur les prix notamment. Je vous donne un exemple, l'enseigne Jiffy vient de se faire épingler par l'association 60 millions de consommateurs. Pourquoi ? Pour une offre exceptionnelle, c'était dit comme ça au moment du déconfinement, le grand patron promettait moins 50% sur tous les produits en magasin. C'était une façon de faire revenir les clients, c'était malin, sauf qu'en réalité ce n'était pas 50%, mais un bon d'achat de 25 euros pour 50 euros d'achat en magasin. Jiffy en aurait même profiter pour augmenter les prix en rayon, selon l'association.
6h12, Mosée sur le mignon. Vous connaissez, c'est joli, hein. Mosée sur le mignon.
Cette image-là,
encore.
En tout cas, oui.
Cette image,
on a très envie d'y aller.
Mosée sur le mignon, on a très envie d'y aller, c'est dans les Deux-Sèvres, messieurs. Dans les Deux-Sèvres. Et Kevin est avec nous. Bonjour Kevin.
Bonjour Jacques, bonjour tout le monde.
Un jeune boulanger installé depuis 5 ans à Mosée. Combien d'habitants Mosée sur le mignon ?
3000.
3000 habitants, c'est à quel endroit ? Vers Parthenay, par là, ou non ?
C'est entre Niort et La Rochelle.
Entre Niort et La Rochelle, d'accord. Bien, Kevin, on va parler du pain. Pourquoi le pain ? Tiens, ben Mathieu Rouault va nous dire, hein, Mathieu ?
Parce que la baguette tradition, c'est meilleur pour la santé. C'est ce que dit un médecin, c'est ce que dit un ingénieur dans le biomédical, qui explique que quand vous mangez du pain blanc, eh bien, il y a plus de risques pour votre poids, pour le diabète, etc., etc.
Alors, est-il vrai que la baguette tradition est meilleure pour la santé, Kevin ?
Alors pour moi, oui. Hein. Parce que le pain courant, en fait, il y a des additifs dedans rajoutés par la nutrie pour que le pain soit tout le temps plus régulier par rapport aux anciens blés dans le temps.
C'est-à-dire que les minotiers rajoutent des additifs dans la farine utilisée pour le pain classique.
Oui, voilà. Alors que pour la tradition, c'est réglementé. On doit juste mettre, donc c'est de la farine de blé pure, rajoutée à de l'eau, du sel, de la levure ou du levain. Et seulement ça.
Ouais, d'accord.
Et souvent, la tradition, elle travaille en fermentation longue, ce qui permet aussi que le gluten ne soit pas le même et plus facilement assimilable par le corps.
Il y a vraiment... Enfin, ça dépend des boulangeries. Il y a des boulangeries, on ne voit pas trop la différence. Et puis, il y a des boulangeries où la différence, elle est claire. Hein, elle est, au goût, c'est incontestable.
Oui, tout à fait. Ben après, oui. Le client fait le choix et fait le tri.
Et qu'est-ce que vous vendez ? Vous vendez plus de tradition ou plus de traditionnel, enfin de traditionnel de boulanger et de baguette classique ?
Ah, on vend 70% de tradition, oui.
Maintenant, 70% de tradition, on en vend de plus en plus.
Et plus cher ou pas alors ?
Et c'est plus cher, Kevin ?
C'est plus cher légèrement, hein, mais
oui, non, bah,
quelques centimes, je crois.
Alors chez moi, c'est 5 centimes plus cher.
5 centimes plus cher chez
c'est
vous.
Pareil,
Kevin.
C'est Christophe, un autre boulanger en Haute-Saône.
Alors, vous êtes boulanger, vous nous appelez, vous nous dites. Merci beaucoup, Kevin, et merci d'être avec nous le matin.
De rien.
C'était un plaisir.
C'est un plaisir pour moi aussi.
Ben, moi aussi, Kevin. 6h15. 6h15, nous allons être en direct dans un instant avec le maire de l'Île-de-Sein. Mais oui. Le maire de l'Île-de-Sein en direct sur RMC à 6h15, 6h17, dans deux minutes. À tout de suite.
RMC. RMC, 6h-9h.
Bon en direct. Allez, il est quelle heure ? Il est 6h19. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier sur l'Île-de-Sein, au large du Finistère. Marine Le Pen a été huée par des habitants de l'île. Pas tous les habitants de l'île, mais par des habitants de l'île. Il faut dire la vérité. Elle n'était pas la bienvenue pour commémorer l'appel du général de Gaulle, l'appel du 18 juin. 40, Quentin Vinet, rappelez-nous ce
Alors,
qui s'est passé.
On va rappeler que tout commence déjà la semaine dernière, quand Marine Le Pen annonce son intention de rendre hommage au général sur l'île, au lieu, vous le savez, de la résistance. Elle invoque son grand-père, Jean, marin pêcheur mort dans l'explosion d'un bateau sur une mine. Elle ne parle pas par contre de son père, Jean-Marie, qui qualifiait encore en 2018 de Gaulle d'une source de souffrance pour la France. Elle n'est donc pas la bienvenue sur l'île de Sein. Les autorités locales l'accusent d'avoir acheté ses tickets de bateau en catimini, en prétextant une cousinade. Sa venue déplaît si fort que les cérémonies sont carrément décalées tôt ce matin pour l'empêcher d'arriver à l'heure. Sauf qu'hier, eh bien, tout le monde est surpris quand Marine Le Pen débarque sur l'île en Zodiac, en plein après-midi, avec un jour d'avance pour rendre son propre hommage aux 80 ans de l'appel, déposer une gerbe, prononcer un discours au pied de la Croix de Lorraine. Une visite express de 2 heures, huée, conspuée par des habitants présents qui, effectivement, lui tournent le dos.
Et la conspue, certains vont même retirer la gerbe de fleurs des opposants que Marine Le Pen qualifie de milices gauchistes antifascistes. Nous sommes avec le maire Didier Fouquet, maire sans étiquette de l'Île-de-Sein. Didier Fouquet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, les habitants de l'Île-de-Sein sont des miliciens gauchistes antifascistes ?
Je pense que Marine Le Pen qualifie là les personnes qui l'ont hué à Audierne. L'Île-de-Sein, elle n'a pas eu
C'est à Audierne, de l'autre côté, sur le continent.
Les gens étaient très surpris à l'Île-de-Sein de sa venue. Bon, on l'a su quelques moments juste avant qu'elle ne débarque, car des sources nous ont informé qu'elle venait de quitter Camaret. Donc, on s'attendait à sa venue, mais nous avons eu peut-être un quart d'heure pour réagir. Donc, je n'y étais pas, mais j'ai pu suivre ça. J'étais dans le train pour me rendre à Paris ce jour-là.
Oui.
Je sais qu'effectivement, les gens qui avaient prévu une intervention aujourd'hui, puisqu'elle devait arriver à 10h suite à notre cérémonie officielle pour repartir à 16h. Donc, les personnes avaient prévu de se mettre sur sa route, de faire une haie d'honneur en lui tournant le dos. Et donc, suite à sa cérémonie ce matin, eh bien, il était prévu que les commerces ferment et qu'il n'y ait personne dans les rues, qu'elle trouve une ville morte.
Mais pourquoi n'est-elle pas la bienvenue sur l'Île-de-Sein ?
Vous savez que la famille Le Pen ne représente pas vraiment les valeurs du général de Gaulle et puis de l'esprit gaulliste et donc de l'esprit majoritaire à l'Île-de-Sein. Il y a probablement quelques personnes à l'île qui ont voté pour elle, mais ce n'est pas la majorité. Et puis elle nous a volé une cérémonie qui se voulait plutôt agréable, sympathique. Et voilà, au lieu d'une fête qui devait se passer entre 13h et 18h, avec même une cérémonie en mer, la présence de la goélette, de la belle poule, un bagade, puis j'en passe. Voilà, on fait une cérémonie plutôt sur le continent, en petit effectif à l'Île-de-Sein de 9h à 10h. Voilà, on a l'impression qu'on nous a, en plus d'un symbole, volé une fête. Voilà, donc elle n'était vraiment pas la bienvenue. Puis même si le FN a changé de nom, je pense que les personnes sont toujours là et que l'esprit est toujours là aussi.
Oui. Est-ce que vous pensez, vous avez dit en début de semaine, je suis choqué par le déplacement de Marine Le Pen qui vise à récupérer des images et des symboles. Mais ces images et ces symboles appartiennent à tout le monde, non ?
Oui, c'est vrai, mais bon, qu'un parti politique souhaite le faire le jour du 18 juin, je trouve ça dommage. Oui. Elle nous aurait annoncé qu'elle souhaitait venir quelques jours avant, pourquoi pas ? Mais bon, ce jour-là, bon, alors quand j'ai été prévenu il y a une semaine par Monsieur Pennel, on a trouvé un compromis. Pour
qui est conseiller régional du Front National, je crois. Régional,
exactement,
c'est lui. Oui, du Rassemblement National, oui.
Exactement. Donc bon, je me suis montré courtois avec ce monsieur.
Oui, c'est normal.
Mais bon, on ne pouvait pas s'opposer à sa venue. Il était prévu qu'il vienne, mais on voulait leur montrer notre opposition à leur présence ce jour-là.
Rappelons le passé glorieux de l'île de Sein, c'est le passé surtout des certains habitants de l'île de Sein. 128 personnes parties rejoindre le général de Gaulle en juin 40.
Oui, c'est cela. Ah. Et bon, actuellement, tout le monde, l'île n'est pas très grande. En hiver, nous sommes entre 150, 200, maintenant 300 ou 400, et puis en été, nous serons un millier, pas plus. À cette époque-là, que 128 personnes aient rejoint le général, bon, c'est quand même exceptionnel. Le général, d'ailleurs, a dit plus tard que c'était le quart de la France et a gardé d'excellentes relations avec l'île de Sein par la suite. Donc oui, l'île représente au niveau national un symbole sur les 5 communes compagnons de la Libération. En plus de Paris, Nantes et Grenoble, il y a Vassieu-en-Vercors, toutes petites communes, et nous, qui poussaient dans l'équipe. Donc ça montre quand même l'importance qu'a revêtu cet événement au niveau national.
Bien sûr. Ces habitants qui se sont rendus par bateau en Grande-Bretagne, après avoir entendu l'appel de Londres, puis a pris l'ordre des Allemands sur le continent de se rendre. Merci.
Oui, alors, petite précision, juste, les Sénans n'ont pas entendu l'appel.
On expliquera.
Ce sont quelques jours plus tard, vers le 22, que l'appel a été entendu.
Exact.
Et les bateaux sont partis du 24 au 26.
Voilà.
Pour votre information, nous souhaitons, nous, à notre échelle sénane, seuls, entre nous, faire une petite cérémonie, l'un de ces jours, en mémoire de ces gens qui sont partis, de l'endroit d'où ils sont partis.
Bien. Merci beaucoup, Didier Fouquet. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Vous allez participer à la cérémonie au Mont-Valérien, je crois, au mémorial de la France combattante.
Oui, c'est ça. Et nous avons réunion à l'hôtel de ville, un peu avant, pour y aller ensemble.
Voilà, avec la maire de Paris, Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Enfin bon, il est 6h25. Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Vous êtes là, vous intervenez, vous réagissez. C'est pas compliqué, le 32-16 RMC. .fr. Nous sommes avec Charles Magnin. Trois histoires et trois images, comme tous les matins, mon cher Charles. Et nous commençons avec la dernière déclaration médicale du docteur Donald Trump.
Oui, le président américain s'est félicité hier de l'existence d'un vaccin contre le sida. Un vaccin qui n'existe pas, mais Donald Trump l'a pourtant affirmé en vantant les mérites des chercheurs américains.
Ils ont déjà trouvé de nombreux traitements et thérapies au fil des ans. Ce sont les meilleurs, les plus intelligents, les plus brillants du monde. Ils ont trouvé le vaccin du sida. Vous savez qu'ils n'ont pas été les seuls et que plusieurs laboratoires sont impliqués, mais ils ont trouvé la thérapie pour le sida. C'était une maladie mortelle et maintenant les malades peuvent vivre avec une pilule. C'est incroyable.
Voilà, Donald Trump qui mélange thérapie, vaccin, etc. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe pas de vaccin contre le sida. Donald Trump a encore voulu en faire un peu trop, au risque de raconter n'importe quoi en même temps. Si un jour ce vaccin est découvert, il pourra dire qu'il a été le tout premier à l'annoncer.
Pendant ce temps-là, en Russie, Vladimir Poutine se protège du Covid-19 grâce à un tunnel de désinfection.
Oui, la Russie, qui n'est évidemment pas épargnée par la pandémie, plus de 500 000 cas détectés, notamment parmi les plus hauts responsables du pays. Alors, pour protéger Vladimir Poutine, un tunnel, un sas de désinfection a été installé. Toute personne qui souhaite accéder au bureau de Vladimir Poutine doit passer par ce tunnel dans lequel un brumisateur va l'asperger de produits désinfectants sur ses vêtements et sur toutes les parties exposées
disposer de son corps. L'histoire ne dit pas s'il faut repasser dans le tunnel en sortant du bureau de Vladimir Poutine, mais en tout cas, a priori, le président russe est bien protégé du virus.
Bien, nous avons parlé de la baguette tout à l'heure, la baguette tradition, Charles.
Elle est meilleure pour la santé. C'est ce que dit ce matin un médecin spécialiste dans Le Parisien. Selon lui, la baguette blanche est composée de farine qui provoque une brusque augmentation des taux de glucose dans le sang, alors que la tradition affiche un indice glycémique quasiment deux fois plus bas. La tradition qui contient également plus de fibres, elle est donc meilleure pour la santé. Seul défaut, la tradition, on l'a dit, qui coûte généralement un peu plus cher.
L'histoire du jour, Diego. Diego, la tortue centenaire, prend enfin sa retraite.
Oui, Diego, tortue géante des Galapagos, espèce qui est, ou plutôt
regardez
était,
Diego,
en voie d'extinction. Oui, Diego, tortue géante, hein, que vous voyez sur RMC Découverte, en tant que mâle reproducteur, Diego a tout simplement sauvé son espèce. Il vient de passer 40 années en captivité sur une île californienne avec une mission simple, se reproduire. Eh bien, mission accomplie, Diego, 40 ans plus tard, est désormais le père d'au moins 800 bébés tortues. L'âge de la retraite a donc sonné pour Diego. On a reçu les images hier. Diego a regagné son île natale dans les Galapagos en Équateur pour un repos bien mérité.
D'accord. La carapace semble un peu usée, fatiguée, mais...
Ah bah il a bien donné, oui.
Mais oui, non, mais même si la carapace est usée, bon, d'accord. Tournage des Tuches 4 vient de reprendre.
Et bonne nouvelle pour Quentin Vinet et tous les fans de la saga, c'est Jean-Paul Rouve, alias Jeff Tuche, qui l'a annoncé sur Instagram. Le scénario a été modifié pour respecter les gestes barrières sur le tournage, mais la sortie est toujours programmée le 9 décembre prochain, car l'histoire des Tuches 4 se déroulera pendant les fêtes de Noël. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est pour Mathieu Rouault. Le tournage du feuilleton Amour, Gloire et Beauté a lui aussi repris aux États-Unis. Le feuilleton diffusé depuis plus de 30 ans sera la première série américaine à reprendre et proposer des épisodes inédits.
Les Tuches, c'est pour Quentin Vinet.
C'est pour Quentin, oui.
Quentin adore les Tuches.
Vous connaissez le scénario du quatrième épisode?
Non, non, c'est quoi?
Jeff Tuche contre Jeff Bezos.
Mais oui.
Ah bon?
Ah oui, les deux plateformes à
face à face. Oui. Il est 6h29. Merci, la machine à café 3216. La Touche 5, Quentin.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
À suivre, ce sont de petites cartouches grises du gaz contenu dans les siphons de chantilly. C'est en vente libre et c'est devenu la troisième drogue la plus utilisée chez les jeunes qui s'en servent comme gaz hilarant. Extrêmement dangereux, prévient le professeur Benyamina, président de la Fédération d'addictologie. Avec nous, juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Pierrick Bonneau est là, il est 6h30, les infos sur RMC, RMC Découverte. Pierrick, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Fini la distanciation sociale en maternelle. Les enseignants vont pouvoir retirer leur masque pour faire court. Le protocole sanitaire de la phase 3 du déconfinement rendu public par le ministère de l'Éducation vous explique tout dans un instant. Interdire la pub pour les SUV, ces petits 4x4 pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'une des idées de la Convention citoyenne sur le climat. Les 150 citoyens tirés au sort rendent leurs conclusions au chef de l'État ce dimanche. Et puis Marine Le Pen chahutée hier sur l'île de Sein. La présidente du Rassemblement National y était venue en catimini pour rendre hommage au général de Gaulle. Nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940. Les enseignants n'ont plus que deux jours pour se préparer au retour obligatoire de tous les élèves en classe. Impossible d'accueillir tout le monde avec les règles sanitaires qui étaient alors en vigueur. Le ministère a donc rendu public un nouveau protocole. Plus de distanciation sociale en maternelle. La règle des 1 mètre de distance entre chaque élève allégée en élémentaire et dans les collèges. Reportage dans l'insigné Florence Donjon.
Lucas savoure ses derniers jours en famille. Dès lundi, il retrouvera les bancs d'école et ses copains de moyenne section qu'il n'a pas vus depuis 3 mois. Sa maman Aurélie se réjouit à l'idée d'une reprise avec le minimum de contraintes sanitaires.
On est content de retrouver le rythme à la normale, de se lever le matin, de retourner à l'école. Il va retrouver ses copains. Maman va retrouver du temps aussi pour elle.
Dans cet établissement qui compte 7 classes et 173 élèves, on a pris connaissance du nouveau protocole sanitaire.
Bonjour, la maman de Laurie.
Pierre Favre est vice-président du syndicat national des écoles. Avec pragmatisme, il informe et rassure des parents parfois inquiets et il se félicite de l'abandon de la distanciation physique pour les plus petits.
Ils pourront également manipuler des objets. Ces objets seront désinfectés une fois par jour et pas à chaque manipulation. Donc on voit bien que là, l'effort a été fait dans le sens d'un véritable allègement et que ce qui était indispensable pour qu'une école maternelle puisse fonctionner a été acté.
Le protocole sanitaire rappelle que le lavage des mains reste essentiel et peut s'effectuer sans distance. Le port du masque, quant à lui, n'est plus obligatoire pour les enseignants si la distance d'au moins 1 mètre est respectée.
Douche froide chez Air France. On savait le secteur aérien fortement impacté par la crise. Les premiers chiffres ont commencé à fuiter. L'agence Bloomberg estime qu'entre 8000 et 10 000 suppressions de postes pourraient affecter la compagnie aérienne, soit près d'un cinquième des effectifs. C'est Hop, la filiale low cost du groupe, qui devrait être le plus touché selon les syndicats. RMC vous révèle ce matin l'une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Les 150 citoyens tirés au sort avant la crise du Covid-19 pour réfléchir à des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils rendront leurs conclusions dimanche au chef de l'État et ils souhaitent notamment interdire les publicités pour les SUV dans tous les lieux publics, des publicités ou des affiches qui font la promotion de ces petits 4x4 très à la mode. L'idée de les interdire n'est pas nouvelle, Thomas Chupin, mais a bien du mal à entrer en application.
C'est en voyant une pub pour un énorme 4x4 vendu comme une familiale robuste que le député Mathieu Orphelin a tenté d'agir l'an dernier. Il a déposé un amendement pour interdire les pubs pour les SUV.
On a des publicités qui nous disent le véhicule parfait pour la ville, pour la jungle urbaine, alors que c'est évidemment loin d'être le véhicule parfait. Le gros SUV de 2 tonnes, est-ce qu'il faut continuer à faire de la publicité? C'est une vraie question.
Ex-député LREM, Mathieu Orphelin veut même se servir de la publicité.
La publicité, c'est une action qui vise à influer sur l'acte d'achat, mettons cette publicité au service de la transition écologique.
Alors il est notamment question d'interdire les SUV d'affiches en ville, d'affiches dans le métro, sur les ronds-points, et Greenpeace veut aller un petit peu plus loin, interdire même les publicités audiovisuelles. Clément Sénéchal est l'un des porte-parole de l'ONG.
On veut que cette société arrête de promouvoir des industries qui sont nocives pour le climat. On peut faire le parallèle avec la loi Evin, elle a supprimé la publicité pour tout ce qui relève du tabac et tout ce qui relève de l'alcool. Et là, on est aussi sur une réflexion sanitaire.
Greenpeace parle de la voiture, mais aussi de l'aérien et des publicités réalisées par les entreprises d'hydrocarbures, notamment celles gérant les stations essence.
Elle n'était clairement pas la bienvenue sur l'île de Sein ce matin pour les commémorations des 80 ans de l'appel du 18 juin. Qu'à cela ne tienne, Marine Le Pen est venue avant tout le monde hier sur ce petit bout de terre du Finistère pour y déposer une gerbe. Une excursion surprise à l'abri des caméras, sauf que la nouvelle de la visite de la présidente du Rassemblement National a vite fait le tour de l'île, lui valant un comité d'accueil très hostile hier. Marine Le Pen pointe du doigt les antifas.
On ne peut plus laisser ces milices d'extrême gauche non seulement empêcher le fonctionnement normal de la démocratie, mais également pourrir par leur présence l'ensemble des mouvements sociaux. Ils ont gâché la manifestation des soignants, ils ont gâché les revendications et les manifestations des gilets jaunes. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que l'État a encore de l'autorité? Et est-ce qu'il entend se servir de cette autorité pour préserver nos droits politiques?
La présidente du Rassemblement National qui revendique le droit de rendre hommage au général de Gaulle, tout comme Emmanuel Macron, le président de la République, sera tout à l'heure en visite au Mont-Valérien en région parisienne avant de s'envoler pour Londres en fin de journée. À propos de politique, une question ce matin. Quel sera l'impact de la crise du coronavirus sur le second tour des municipales le 28 juin? Va-t-on assister à une prime aux maires sortants qui ont pu profiter de la crise pour continuer à faire campagne pendant 3 mois? Dans la commune d'Itteville, dans l'Essonne, où le maire est en ballotage défavorable, l'opposition dénonce l'inéquité de cette situation. Romain Poiseau, reportage.
Mesdames, bonjour.
Tract à la main, François Parolini, candidat de l'opposition d'hiver gauche, rattrape le temps perdu pour faire campagne avant le second tour.
La position du maire, vous avez trouvé comment?
Une de ses stratégies, attaquer l'attitude du maire sortant pendant le confinement.
Il était dans son rôle et il en a fait plus que...
Il en a fait un petit peu trop.
La mairie a acheté des tablettes et des ordinateurs portables aux enfants de la commune, a mis à disposition des masques pour tous les habitants. Initiative du maire louable, pour François, un habitant, oui, mais intéressé.
Il a essayé de se montrer quand même, il a essayé de faire des choses, mais le Covid, il fallait intervenir. Mais on intervient, on s'en sert pas de manière à briller, quoi.
Un entre-deux-tours et une campagne inéquitable pour le candidat de l'opposition, François Parolini.
Il y a eu toute une dérive de la campagne qui était là pour nous faire sauter dans le gouffre de l'oubli, quoi.
Le maire sortant d'hiver centre, Alexandre Spada, lui, assume toutes les mesures qu'il a prises pendant le confinement.
On a tenu le manche, on a piloté l'avion. Tout ce qu'on peut dire sur est-ce que c'est une aubaine, est-ce que ça nous a servi ou pas, c'est un peu le boulot de l'opposition que d'affirmer ça, et nous, notre boulot, c'est juste de nous taire et d'agir.
Au total, 180 000 euros ont été dépensés par la commune pour faire face à la crise du Covid-19.
Cette fois, c'est officiel, la fin de l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. le Final 8 aura lieu à Lisbonne à partir du 12 août pour une finale qui aura lieu le 23 août. Quatre équipes sont déjà assurées de participer à ce Final 8. Le PSG, l'Atlético de Madrid, l'Atalanta Bergame et Leipzig. Les courses, c'est à la Teste de Buch, Mathieu Rouault.
À 18h20, à vivre en direct sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 7, Virka, outsider numéro 10, Dicon, le 7 et le 10.
Merci Mathieu, il est 6h38. Tiens, la boulangerie, on en parle beaucoup ce matin, le pain tradition, les baguettes tradition ou les baguettes classiques. Albert, et dis-moi.
Oui, bonjour.
Bonjour Albert. Oui. Boulanger à Nîmes, à quel endroit à Nîmes Albert?
Derrière les 7 collines, la boulangerie adore le pain.
Bon, Albert, dites-moi, vous n'utilisez que de la farine de tradition française, c'est ça?
Oui, quasiment. Pour 90 ou 95% de mes produits de viennoiserie, pâtisserie, pain, oui, baguette, c'est de la farine de tradition française.
Oui, il y a une différence. Donc une farine sans additifs.
Exact. La farine de tradition française, c'est, on va dire, du 100% blé. Il n'y a pas d'additif, pas d'adjuvant, pas d'améliorant, pas d'acide ascorbique, c'est le E300, pas d'alpha-amylase, pas de bêta-amylase, pas de zinalase, pas de cellulase. C'est ce qu'on appelle les enzymes qui sont rajoutées dans les baguettes. Et la différence, si vous regardez bien une baguette de tradition chez votre boulanger, par rapport à la baguette ordinaire, eh ben elle sera, pour le même poids, elle sera plus petite. Ou la baguette avec tous les produits additifs, elle sera plus grande, elle sera plus volumineuse, et puis après le pétrissage et la façon de travailler la baguette fera qu'on aura une mie qui sera plus blanche, qui sera insipide ou avec, ouais, moins de goût, etc.
Qui va sécher plus vite.
Oui, ou qui peut se ramollir aussi plus vite.
Ou se ramollir plus vite. Albert, on voit tout de suite la farine utilisée. Tout de suite. Le consommateur doit pouvoir voir tout de suite. D'abord, il doit pouvoir savoir, ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai fait le choix de quasiment utiliser que de la farine de tradition française. Donc, je le dis à mes clients, je leur explique, etc. Oui, beaucoup, oui, de personnes, des fois, sont sensibles au gluten. Mais je leur dis, des fois, ce n'est pas le gluten, c'est des additifs qui peuvent les rendre sensibles. Et mes autres confrères, ils vendent tous de la baguette de tradition française, ils ne peuvent pas expliquer la différence, puisque leur baguette de base contient toutes ces cochonneries. Donc, ils ne vont pas se planter un couteau dans le ventre en disant, ben, j'ai une farine de tradition française, il n'y a pas de cochonnerie dedans, et j'en ai une autre dans laquelle il y en a plein, mais elle est quelques centimes moins chère. Et encore, moi, je vends ma baguette de tradition française à 75 centimes.
Combien ? 75 centimes, vous, Albert ?
Oui, quand on les vend, par lot de 4. Hein, 3
oui,
euros,
par lot de 4. Oui, mais et à l'unité ?
À l'unité, 1 euro.
1 euro. Ben, c'est très raisonnable. Albert, bravo. Rappelez-nous votre boulangerie, parce que...
c'est les boulangeries Adore le pain à Nîmes, et j'en ai ouvert une également à Calvisson, à quelques kilomètres de Nîmes.
À Calvisson. Ce n'est pas ma route, mais pas loin de Nîmes. Merci Albert. Merci beaucoup.
Jacques.
Et merci Albert. Boulanger à Nîmes et à Calvisson. Il est 6h47 en moins 20. Un peu de pub. Ensuite, nous allons parler de ces petites capsules que vous avez peut-être vues dans les rues ou même à la campagne, au sol, abandonnées, des petites cartouches. En fait, cartouche argentée, elle contenait du protoxyde d'azote. C'est un gaz hilarant qui peut être dangereux pour les jeunes, les ados et les jeunes. J'en parle dans un instant avec le professeur Amine Benyamina, qui est président de la Fédération française d'addictologie. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte pour savoir et comprendre. Il est 6h41.
RMC, 6h-9h.
Bourdin
direct.
Il est 7h moins le quart. Le professeur Amine Benyamina est avec nous, président de la Fédération française d'addictologie, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Saclay. Bonjour, professeur Benyamina. Merci d'être avec nous. Vous avez vu traîner comme moi, en ville, mais pas qu'en ville. On en trouve dans des petites villes aussi. On en trouve même à la campagne maintenant. Des petites cartouches ou capsules. On les voit derrière moi qui sont argentées, vides, évidemment, qui ont été utilisées. Et qui contenait quoi ? Qui contenait du protoxyde d'azote. À quoi servent ces capsules ?
Eh bien, elles servent tout, partout, sauf pour un usage, disons, récréatif, du moins au départ. On les utilise beaucoup dans l'industrie automobile, Oui. On les utilise beaucoup aussi dans l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est ces fameuses cartouches que l'on met pour faire de la chantilly. Tout le monde a suivi les émissions, les émissions cuisine. Et vous savez que lorsqu'on fait, on prend cette espèce de d'objet dans
le siphon,
le siphon dans lequel on met des mousses, la chantilly, on a besoin de ce gaz pour faire, pour donner cet aspect. Donc ça se trouve dans
Ça se trouve partout dans le commerce, partout ça coûte rien. Ça coûte quelques dizaines de centimes
dans
d'euros.
Dans les grands magasins à Paris, dans les commerces, ça coûte rien du tout, absolument
ça
rien.
Ça coûte rien du tout. Absolument. Alors c'est utilisé à ces fins-là, et puis ça a été, l'utilisation a été détournée par des jeunes, des ados, qui utilisent ces cartouches pour connaître un moment d'ivresse. On appelle cela le gaz hilarant.
Absolument. C'est un moment d'ivresse furtif, un moment d'élation, comme on dit, et de détente, désinhibition. C'est rapide, c'est quelques secondes, mais ça crée une ambiance très sympathique et on a le sentiment d'être dans une pratique sans aucun risque, d'innocuité complète, ce n'est pas le cas.
Alors comment les jeunes l'utilisent ?
Ils utilisent en général un ballon de baudruche ou bien un autre en vide, le contenu, et puis on prend le temps de l'utiliser, et puis on se le passe et on est très très bien. Vous savez, c'est une histoire ancienne, contrairement à ce qu'on croit. Les premiers à avoir utilisé ce type de gaz, c'était au 19e siècle, ce qu'on appelle les gaz partis en Grande-Bretagne. C'est souvent comme ça l'histoire des drogues. Ce sont les gens plutôt bien en société, bien placés, et qui ont une véritable impunité sur le plan des lois, et qui s'amusent à utiliser des drogues. Ça commence toujours comme ça, toutes les drogues dans le monde. Et donc, un siècle après, les jeunes l'ont de nouveau utilisé. Et la plupart des jeunes qui l'utilisent connaissent un tout petit peu la partie un peu scientifique, parce que là où ce gaz est le plus souvent, le plus répandu, c'est les étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie. Et j'ai eu l'occasion, au titre de la Fédération Française d'Addictologie, de venir faire une conférence dans des universités, des facs de pharmacie. Ils n'étaient pas étonnés, ils connaissaient très très bien la manière avec laquelle les choses fonctionnent. Le problème, c'est qu'on a affaire maintenant à un phénomène qui est en train de se généraliser, qui ne touche plus que des étudiants, qui touche des lycéens, et qui a commencé à entraîner des problèmes de santé.
Des problèmes de santé, parce que ça peut être très dangereux.
On peut avoir des décès.
Des décès, ça peut provoquer des décès.
Oui, des décès comme ça, automatiques, c'est rare. Il peut y avoir des phénomènes comme ça, d'arrêt cardiaque, ou bien ça arrive. Oui. Ça a été rapporté, c'est rare mais ça arrive. On a des complications neurologiques, on a vu même parfois pour ceux qui le faisaient de manière itérative des crises d'épilepsie. On peut avoir des complications psychiatriques au long cours lorsqu'on est consommateur régulier avec des problématiques de type troubles de l'humeur. Vous connaissez les troubles de l'humeur, voilà. Ouais, et puis on peut avoir des problématiques de type cardiaque. Ça, c'est les trois.
Lorsqu'on inhale ce gaz, ça provoque une euphorie, donc une sorte d'ivresse. Oui. Et puis accompagné d'un fou rire irrépressible.
Oui, c'est un fou rire. Vous savez que ça reproduit un tout petit peu ce qu'on voit dans ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Oui. C'est un excès de gaz qui vient perturber toute la circulation.
Et bien sûr.
Et la
circulation du sang.
Complètement. Et donc, c'est marrant sur le coup. Mais après, vous avez un effet de crash qui est très désagréable. C'est souvent le cas. Quand on a un effet comme ça, on suraccélère l'humeur et le plaisir, il y a toujours un retour. Et là, c'est très pénible pour eux.
Et là, c'est très pénible à vivre.
Absolument.
Très pénible à vivre. Mais que faire contre cela ?
On a eu quelques pistes. On a pensé qu'il fallait interdire la vente aux mineurs à 18 ans et un jour. Alors, on est à la fac, on peut aller.
Tout ce qui est interdit aux mineurs est permis d'acheter.
Complètement. Si donc l'interdiction va attirer finalement. Je pense qu'il faut essentiellement, probablement faire ce que vous faites, c'est-à-dire parler, attirer l'attention pour ceux qui sont un peu naïfs ou ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne me suis pas renseigné, pour être tout à fait honnête, il faut assortir avec une note précise sur les risques liés au détournement de ce type de capsule de procédé, et espérer que c'est un phénomène de mode, et comme tout phénomène de mode, un jour ou l'autre, il peut disparaître. Mais je n'ai pas le sentiment, parce que ça commence à bien s'installer dans les pratiques chez les jeunes.
Oui, et plusieurs communes ont pris des arrêtés municipaux pour interdire l'usage et la vente du protoxyde d'azote, notamment en région parisienne. J'ai vu la commune de Brunois, dans l'Essonne, qui vient de prendre un tel arrêté, à Évreux, à Ouattrelot, la Madeleine, à Valenciennes, parce que ça touche
absolument tous les milieux, hein. Sociaux, que... tout le monde est touché.
Problème d'interdiction, vous connaissez ma position, ben monsieur Bourdin, c'est quand on interdit, donc on donne un coup d'accélérateur au trafic et on augmente les prix et on attire tous ceux qui veulent faire une expérience interdite.
Quoi. Ben c'est bien sûr. Et c'est puis, la quadrature du cercle. Et puis qui veulent trafiquer
en même temps
ces produits en même temps et se faire de l'argent sur ces produits. Hein. On connaît ça avec le cannabis, on connaît ça avec
toutes ces drogues.
Vous connaissez complètement. Où ça en est d'ailleurs la consommation de cannabis et les...
Elle est stable.
Elle
atteint une population qui consomme beaucoup avec des risques psychiatriques. On a avancé un tout petit peu sur la légalisation du cannabis thérapeutique, mais c'est bloqué, l'arrêté doit sortir. Mais la grande avancée serait très certainement de faire un gros travail sur l'encadrement du cannabis festif. Et là, je pense que la France a beaucoup de retard.
C'est-à-dire un encadrement.
Dans la légalisation, tout simplement.
Vous êtes favorable.
C'est pas un gros mot, hein.
Non.
La plupart de ceux à qui vous posez la question disent, ils oublient carrément que c'est un produit qui est interdit. Donc il faut accompagner, encadrer et protéger.
Bien, merci beaucoup, professeur Beniamina. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 6h51. Ça vous fait réagir, j'en suis absolument certain. 32-16. Pour savoir et comprendre, le matin, c'est pas compliqué. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte. 6h51.
À suivre, la crise économique redoutée à laquelle il faut se préparer. Les technologies peuvent nous aider. Anthony Morel, c'est déjà demain dans une minute sur RMC.
RMC, c'est déjà demain.
Avec Anthony Morel, l'innovation au service de la recherche d'emploi. Mon cher Anthony, aujourd'hui vous nous présentez quelques innovations qui pourraient aider les demandeurs d'emploi à trouver du travail ou à découvrir de nouveaux métiers plus facilement.
Oui, c'est ça. Alors, pas des solutions miracles.
Chercher du boulot, écoutez Anthony Morel.
Je ne vais pas résoudre le problème du chômage en claquant des doigts non plus.
Mais j'imagine.
On va trouver des innovations qui vont fluidifier la recherche d'emploi.
C'est le problème qui s'annonce.
Voilà, c'est un peu ça, effectivement. Oui. Alors, je pense à une start-up qui s'appelle Hucklink. Ils ont eu une idée super intéressante. Ils ont mis au point une borne interactive de recherche d'emploi. Alors, on commence à voir se déployer ça dans les gares, par exemple, ou dans les centres commerciaux. Ça ressemble à une borne, un peu comme les bornes SNCF, là, où on échange les billets de train. Bon, c'est un peu le même principe, sauf que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver et vous allez, en moins de 2 minutes et sans déposer de CV, pouvoir postuler pour un emploi.
Mais ça, c'est extraordinaire.
C'est une super bonne idée. C'est-à-dire que vous attendez votre train, vous n'avez rien d'autre à faire, vous mettez devant la borne, vous mettez votre nom, votre prénom, votre branche d'activité, et on va vous proposer des offres d'emploi géolocalisées, donc qui se trouvent
avec le salaire.
Alors ça dépend. Des fois il y a le salaire, des fois il y a pas le salaire. En tout cas, vous avez l'offre.
Les conditions de travail.
Les conditions de travail éventuellement. Oui. Surtout, c'est géolocalisé, donc c'est à proximité. C'est des offres qui sont remises à jour, rafraîchies toutes les 15 minutes. Alors je sais pas. J'ai pas tous les détails pour chaque offre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez. On va vous poser quand même quelques questions pour voir si vous correspondez à peu près au poste. Si vous avez, je sais pas, de l'expérience en tant que chef de rang dans un restaurant ou si vous maîtrisez tel ou tel langage informatique, si vous voulez devenir développeur informatique. Et à partir de tout ça, l'entreprise va pouvoir vous contacter et vous avez juste eu à répondre à 2 ou 3 questions sur une borne.
Pour les entreprises, c'est formidable aussi parce que ça permet aux entreprises de faire découvrir virtuellement des métiers que l'on ne connaîtrait peut-être pas.
Exactement. Alors pour ça, on va utiliser un autre outil dont je vous parle régulièrement. C'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on s'en sert pour les jeux vidéo, mais on peut aussi s'en servir pour la recherche d'emploi. Surtout en ce moment, avec les gestes barrières, on peut pas forcément se déplacer dans les entreprises.
C'est vrai.
Pour les entretiens d'embauche, découvrir les entreprises. Là, vous mettez le casque sur la tête et vous êtes téléporté dans une entreprise, une usine, un entrepôt. Vous pouvez découvrir un métier que vous ne connaissez pas. Carrossier, soudeur, boulanger. Vous allez même pouvoir vous former. On va vous apprendre les premiers gestes. Les pompiers, par exemple, aux États-Unis, enfin un certain nombre d'entre eux, pour les nouvelles recrues, eh bien, elles sont formées en utilisant de la réalité virtuelle. Et c'est très intéressant parce qu'évidemment, on n'a pas forcément envie de les envoyer au feu directement. C'est des métiers qui sont dangereux. Donc là, vous allez pouvoir apprendre les premiers gestes et ensuite passer dans le monde réel. Mais le virtuel, c'est une première étape.
Est-il vrai que Pôle emploi propose de passer un entretien d'embauche, un casque sur la tête ?
Oui, exactement. Alors, c'est pas l'entretien d'embauche à proprement parler, mais c'est un entraînement pour l'entretien d'embauche. Et c'est un moment qui est toujours un peu compliqué, l'entretien d'embauche. C'est très stressant, il y a un gros enjeu. Donc là, on vous met un casque sur la tête et vous allez être projeté dans le bureau d'un DRH qui va vous poser des questions, parfois des questions pièges, faut apprendre à bien répondre. Et en gros, c'est un entraînement, un peu comme un jeu vidéo finalement, avant d'être, pour être fin prêt pour le jour J, quoi, tout simplement.
Merci Anthony Morel. Et demain, vous nous parlez des barbecues.
Ah, c'est promis. Le barbecue à la sauce high-tech.
La sauce high-tech, ça va être quelque chose. Rendez-vous.
La sauce béarnaise et la sauce high-tech. C'est ça.
6h58. Nathalie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Nathalie, vous êtes à Boisseuil, c'est en Haute-Vienne, hein Nathalie?
Tout à fait.
Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin, Nathalie?
Eh bien, c'est plutôt quand c'est tôt la télé, et puis ensuite je passe éventuellement
vous passez éventuellement à la radio. Nathalie, vous avez bien fait. Merci d'être fidèle. Ça fait longtemps que vous êtes avec nous ?
Oui, depuis des années.
Depuis des années.
Ce matin, j'ai décidé de passer une bonne journée. Ma journée allait être bonne.
Vous avez gagné, Nathalie, votre machine à café. Et les capsules qui vont avec. J'en suis très heureux, Nathalie.
Merci. Est-ce que je peux en profiter pour faire deux petites remarques ?
Allez-y, Nathalie.
C'est au sujet des voitures électriques.
Oui.
Est-ce qu'il serait possible, éventuellement, de rajouter les aides pour les premiers véhicules pour les jeunes ?
C'est une bonne idée, ça. Pour les jeunes, premier véhicule, ouais, une aide spécifique. C'est une bonne idée.
Et puis, éventuellement, s'ils ne mettent pas des tarifs dans leur publicité avec les primes à la casse, parce que ça casse complètement l'offre, on n'arrive pas, tout le monde n'a pas droit. Et je me souviens qu'en étant chef d'entreprise, j'avais une entreprise de service à la personne, et j'avais eu la répression des fraudes qui m'était tombée dessus parce que j'avais eu le malheur de faire des flyers avec la réduction d'impôts incluse. Il
risquait
35 000 € d'amende.
Oh là là,
la prison ferme. Voilà. Bon, donc là, merci. On n'est pas dans le même registre, mais effectivement, tout le monde n'y a pas droit.
Merci Nathalie. Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir. 6h59.